Session de philosophie sur la liberté par le père Philippe à Saint-Jotard, le 1er septembre 1988, 13e conférence.
Deux questions posées, une à laquelle je répondrai très vite, et l'autre aussi du reste, parce qu'elle est très longue. Pourquoi Satan ? Parce que Dieu, dans sa sagesse divine, l'a voulu. C'est ça. Mais pourquoi ? Je répète, parce que je vois qu'il y a... On n'a pas... Pourquoi Lucifer, si vous voulez. Pourquoi Satan? Pourquoi le serpent? Pourquoi le dragon? Pourquoi le démon? J'aurais pu très bien faire, ça n'existe pas. Dieu respecte infiniment la liberté des créatures spirituelles. Qu'une créature spirituelle puisse se révolter contre Dieu, c'est possible. Satan s'est révolté. Quel a été le motif? C'est pas révélé de façon explicite, mais on peut quand même le préciser. Et je crois que c'est la révélation que Dieu a voulu réaliser son chef-d'œuvre. L'homme et la femme. Et je crois que c'est cela que Lucifer n'a pas accepté. Que les petits derniers, les benjamins, puissent passer devant, être plus aimés. C'est impossible pour l'intelligence orgueilleuse d'accepter que l'amour passe avant l'intelligence. L'orgueil n'accepte pas que l'amour passe avant l'intelligence. C'est l'intelligence qui doit être première. Et Lucifer aurait souhaité que l'ordre de sagesse de Dieu respecte l'ordre d'intelligence. Et faire que les petits derniers et la petite dernière, puisque c'est la femme qui est la benjamine, passent devant tous les autres. On voit très bien cette espèce d'opposition. Et Dieu, malgré l'opposition, a continué. Et comme le péché ne détruit pas la nature, l'ange garde une certaine supériorité sur l'homme, naturellement. Une certaine autorité naturelle et un certain pouvoir. Mais par le péché, il perd son autorité et il garde son pouvoir. J'aurais pu évidemment supprimer le pouvoir du démon, l'enchaîner. Il l'a laissé. Pour que nous puissions aller plus loin dans l'ordre de l'amour. Tout le grand mystère de Jésus. Jésus a porté l'iniquité du monde pour aller plus loin dans l'ordre de l'amour et de la miséricorde. Et ce qui est vrai de Jésus est vrai de nous. Jésus aurait pu nous rétablir dans le paradis terrestre. Jésus aurait pu faire qu'à partir de lui, il n'y ait plus de lutte. Il a voulu au contraire que nous continuions la lutte avec lui. Je n'en dis pas plus. Mais on voit très bien que face à cette opposition du démon, Jésus a répondu en allant plus loin. Marie est un chef-d'œuvre plus accompli que Ève. Et ça, c'est la réponse divine à Satan. Pourquoi l'Écriture nous présente-t-elle la liberté comme une fin? Ce que je vous disais hier, la glorieuse liberté. Bien se rappeler cette expression. La glorieuse liberté. C'est assez extraordinaire, tu vois. Philosophiquement, je n'oserais pas le dire ça. Peut-être qu'en fêtant l'anniversaire de la Bastille, on verra le président de la République qui quelquefois aime bien d'employer des termes de l'écriture, n'est-ce pas, dira la glorieuse liberté. On voit. C'est très extraordinaire. Moi-même, je suis... C'est très, très beau, la glorieuse liberté. Il y a deux choses, les textes que je vous ai rappelés hier. Vous savez, l'écriture a une telle richesse que chaque fois on découvre des choses nouvelles. J'avoue que, lisant l'écriture, dans le contexte de cette recherche de la liberté, on découvre des choses qu'on n'avait pas vues. J'avais pas vu qu'au point de vue de la foi, c'est assez net, qu'au point de vue de la foi, la libération est un ébranlière. C'est assez étonnant. Alors que les objections du début, si vous vous souvenez, pourquoi commencez-vous par l'acte libre et non pas par la libération? La foi regarde en premier lieu la libération. Et l'intelligence philosophique regarde en premier lieu l'acte libre. Et je maintiens le commencement, vous voyez, l'expérience première philosophique, c'est l'acte libre. Ça, j'en suis sûr. C'est pas la libération. Tandis qu'au niveau de la foi, je suis obligé de le reconnaître. Dans l'ancienne alliance, c'est net. Moïse va libérer son peuple, doit libérer le peuple d'Israël. Jésus parle de la libération. Saint Paul, la justification, libération du péché. On comprend? Parce qu'au fond, et voyez pourquoi, on part du péché. On est né dans le péché. Le péché supprime la liberté. On est esclave. Esclave du péché. Et donc, il s'agit en premier lieu d'être justifié et libéré pour que la liberté puisse apparaître. Le philosophe ne regarde pas en premier lieu dans l'homme le pécheur. Il regarde l'homme. Et donc, il regarde l'acte volontaire. Il ne regarde pas en premier lieu. Tandis que le croyant regarde en premier lieu le pécheur. Ça, c'est le regard du croyant. Et vous voyez, c'est l'esclave du péché. L'homme, c'est l'esclave. Dans un regard de foi, je vois en premier lieu que je suis pécheur. Je confesse à Dieu. Confiteor, je confesse à Dieu, je reconnais que je suis pécheur. Seigneur, aie pitié. Tandis que le philosophe ne dit pas Seigneur, aie pitié en premier lieu. Pas du tout. Il regarde l'homme. Mais ça, c'est très intéressant pour bien comprendre en nous la manière dont on développe la foi, la manière dont on développe l'intelligence. Il faut respecter la différence entre la nature humaine et la grâce. Alors, l'esclave du péché, libération qui conduit à la liberté. Alors vous comprenez bien que dans cette perspective, la fin de la libération, c'est la liberté. Alors, je comprends que la liberté est fin. Fin de la libération. Et comme c'est sous cet aspect-là que je regarde la liberté, je la regarde comme fin. Tandis qu'au contraire, le philosophe regarde l'homme en premier lieu. Il regarde l'acte libre. Et donc la liberté n'apparaît pas du tout comme fin. Elle apparaît comme une manière particulière d'exercer mes opérations humaines. C'est pas contradictoire, hein. C'est toujours la même chose, hein. Avec la foi, j'ai un regard divin. La foi me donne un regard divin. L'intelligence philosophique me regarde un regard humain. Un regard intelligent mais humain. Entre ce regard philosophique et le regard de la foi, il y a un abîme infini. Il ne peut pas y avoir de contradiction. Impossible. Parce que tous les deux, foi et intelligence, dépendent de la sagesse divine. Ils ont même source. Donc il ne peut pas y avoir de contradiction entre les deux. Il peut y avoir des contradictions apparentes, mais il ne peut pas y avoir de contradiction. Mais respectons, hein, la foi. Un regard divin, donc, j'emprunte le regard de Dieu. Et la philosophie, regard humain. Je vole ici à 100 mètres. Prenez la comparaison du vol aérien. Et ici, je vole à 100 000. Et encore, c'est rien de dire ça, hein. Parce que vous pouvez mettre l'infini. Le divin est infini. Il faut bien comprendre que le regard de foi et le regard philosophique, il y a un abîme. C'est pour ça que c'est si terrible de voir la position hegélienne qui fait que la philosophie absorbe la foi. C'est terrible. Ça, c'est l'orgueil. Pas nécessairement subjectif du côté de Hegel, mais c'est effrayant de voir que l'intelligence absorbe la foi. Comme si la créature absorbait Dieu. C'est pour ça qu'au terme, l'intelligence hegélienne, c'est Dieu. Hegel est Dieu. Et quand il fait l'application au point de vue politique, la Prusse représente Dieu. C'est assez extraordinaire, ça, comme vision. On a l'impression qu'Hegel n'a jamais posé la question de son voisin. Parce que si Hegel est Dieu, je peux l'être, moi tout. Alors, on est deux, on ne peut pas. Oui, c'est important de saisir ces choses-là. Donc, voyez bien que dans un regard humain, l'homme, dans un regard philosophique, l'homme est premier. Dans un regard de foi, Dieu est premier. Voilà. Donc, on a compris ça. On comprend que dans un regard de foi, la liberté est regardée en Dieu en premier lieu. Dans un regard philosophique, la liberté est regardée en premier lieu dans l'homme. C'est ce que Descartes n'a pas assez compris. Quand il met cette jonction de l'un à l'autre. Alors, il n'y a pas de contradiction. Parce que la liberté est une qualité de l'acte. Or, une qualité de l'acte, c'est l'essence même de l'acte. C'est une propriété. Si je n'analyse pas, la foi n'analyse pas. Hein. La foi affirme. La philosophie analyse. Oh, ajoutez ça tout de suite. La foi, c'est une adhésion. Et la philosophie analyse. C'est une adhésion, la foi. La foi, c'est comme un enfant. Il ne faut pas confondre les deux. Dans une attitude de foi, j'adhère. C'est ce que nous allons voir tout de suite maintenant. Comment l'acte de foi réclame la liberté? Est-ce que l'analyse philosophique réclame la liberté? Vous voyez, posez bien la question. L'adhésion de foi, est nécessairement libre. Je crois parce que je veux croire librement. L'analyse philosophique est-elle libre? Puis-je dire, j'analyse philosophiquement parce que je veux analyser. Alors, regardons l'adhésion de foi. Qu'est-ce que c'est que la foi? Le mystère de la foi. C'est un mystère. Donc on va tourner autour. On ne va pas dire ce que c'est. On dit comment la foi se présente à nous. Regardez le premier acte de foi qui nous est montré dans l'Écriture. Abraham. Quitte ton pays. Va vers une terre promise. La foi apparaît sous un aspect pratique qui dirige notre vie et qui est lié à l'obéissance. Une foi obéissance. Abraham reconnaît que Dieu est le Créateur. Que Dieu est le Dieu unique créateur, dont il dépend entièrement. Il est entièrement dépendant de Dieu et se soumet à Dieu. Abraham adore Dieu. Abraham croit en la parole de Dieu. Abraham obéit à Dieu. La foi de Marie à l'Annonciation. Abraham, Marie. Marie adhère au message de l'ange. L'ange lui demande si elle accepte d'être la mère du Fils du Très-Haut. Et Marie adhère, accepte, elle dit fiat. Qu'il me soit fait selon ta parole. Marie ne répond pas. Oui, j'accepte d'être la mère de Dieu. Non. Parce que là, ce serait répondre en fonction de ce que nous avons compris. Tandis que dans la foi, on répond non pas en fonction de ce que nous avons compris, ce qui se passe dans un dialogue humain. Mais on répond en fonction des exigences de la parole de Dieu. Qu'il me soit fait selon ta parole. Donc, au-delà de tout ce que je peux comprendre. Parce que ce que vous comprenez de la parole de Dieu n'est pas le mystère vers lequel conduit la parole de Dieu. Le mystère est toujours au-delà de notre compréhension. Il ne faut jamais oublier ça. Vous comprenez quelque chose dans la parole de Dieu quand vous lisez l'Écriture. Vous comprenez quelque chose. Il y a quelque chose d'intelligible, c'est Dieu qui nous enseigne. Et c'est très grand. Mais l'adhésion de foi dépasse le contenu intelligible des propositions de foi. Ce qu'il faut tout le temps se rappeler, surtout aujourd'hui. Parce que très facilement, aujourd'hui, on ramène l'adhésion de foi à la parole. Et par le fait même, on ne voit plus que la foi est une connaissance divine contemplative. On contemple la personne qui nous parle en écoutant ce qu'elle nous dit. Et c'est la personne qui nous parle qu'on contemple. Et on écoute ce qu'elle nous dit. On s'instruit par ce qu'elle nous dit. Ça, c'est la parole. C'est la proposition de foi qui connaît, qui a une certaine intelligibilité. Mais la foi va plus loin que ce que vous comprenez. C'est en ce sens-là que la théologie qui sait d'extraire de la parole de Dieu tout ce qui est intelligible, la théologie demande tout le temps de revenir à la parole de Dieu et au mystère. Les conclusions du théologien ont un mode humain qui doit être totalement relatif à la parole de Dieu qui, elle, est divine. Et qui, elle, conduit au mystère. Je vous rappelle là des choses qu'on doit connaître pour ne pas se laisser prendre par une manière, j'allais dire, trop humaine d'expliquer ce que c'est que la foi. Il faut comprendre que la foi, c'est vraiment une lumière divine qui nous est communiquée. C'est la lumière de Dieu en nous. C'est ça que c'est pas commode à porter. Pas commode du tout. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais c'est la philosophie, on est à l'aise. Quand on l'a comprise, quoi. On est à l'aise, quoi. C'est la philosophie. Reste une chose humaine. Une chose, vous voyez, qui, de fait, nous enrichit. La philosophie doit nous conduire à la sagesse acquise. On doit devenir un sage. La foi fait de nous des enfants. Je te rends grâce, Seigneur, d'avoir révélé ces choses aux petits et non pas aux sages et aux prudents. Et Jésus s'en réjouit. Le pauvre sage et le pauvre prudent, ça c'est le philosophe. La foi nous appauvrit tout le temps. C'est pour ça que dans un monde comme le nôtre, qui est un monde du très grand progrès de la science, un monde où il y a un culte de l'intelligence, très grand, de la raison. C'est très difficile pour le croyant d'être un vrai croyant. Pour saint Paul, c'est net, le croyant est toujours un étranger dans le monde. Qu'est-ce qu'il dirait aujourd'hui ? Et c'est vrai, la foi demeure comme une enclave, vous voyez, la lumière de nuée conduit le peuple d'Israël. C'est quelque chose qui vient directement du ciel et qui est reçu en nous. Et par la foi, nous sommes agrandis pour avoir un regard divin, le regard même de Dieu sur tout ce qui est. La foi est donc quelque chose d'une dignité divine, d'une qualité divine. Cette foi, elle est dans mon intelligence. Et elle ennoblit mon intelligence. Elle permet à mon intelligence, vous voyez, d'avoir quelque chose qui lui permet ce dépassement divin. Télescope, regarde, avec des lunettes divines, si j'ose dire, avec un regard divin, de lumière divine. L'acte de foi que je fais, quand je dis « Seigneur, je crois en vous, Père, Fils et Saint-Esprit. Seigneur, je crois en vous dans le mystère de l'incarnation, dans le mystère de la rédemption. » Cet acte de foi, je dis, est essentiellement libre. Je crois parce que je veux croire. Il faut bien saisir ça. Pourquoi ? Parce que précisément, cette lumière divine me permet de recevoir la parole de Dieu et d'adhérer au mystère divin dans une totale obscurité. Dieu ne se révèle pas à moi dans la lumière. Il se révèle à moi comme un Dieu caché, qui se révèle et qui reste caché. Je ne vois pas. Le Père, personne ne l'a vu, sauf le Fils unique qui est dans le sein du Père. Je n'ai jamais vu Dieu. Jamais vu Dieu. Et quand j'adhère à Dieu, c'est dans l'obscurité. La foi ne porte donc pas sur une évidence, mais elle porte sur un mystère révélé qui demeure obscur pour moi tant que je suis ici sur terre. Et qui appelle par le fait même, pour que j'y adhère, une bonne volonté. L'intelligence, livrée à elle-même, n'adhère qu'à ce qui est évident. Quand quelque chose est évident, vous dites oui, très bien, avancez. Tant que ce n'est pas évident, je dis, je ne comprends pas. Il ne voit pas. Alors vous dites, écoutez, continuez, croyez que ce que je vous dis est intelligent. C'est ce qu'on fait constamment. On avance. Alors vous croyez en ce moment-là grâce à l'autorité de quelqu'un que vous considérez compétent dans la matière. De temps en temps, vous donnez des coups de sonde, vous tapez sur la porte pour voir si c'est authentique ou si c'est quelque chose de fallacieux. Alors vous posez une bonne question, vous mettez une bonne mine pour voir, ah, il ne saura pas quoi répondre. Donc, l'autorité limitée. Si au contraire il peut répondre, oui, je vois, il est bien compétent dans la matière. On fait ça tous, hein, et c'est normal, c'est prudent, au point de vue humain. On ne peut adhérer à quelque chose que nous ne comprenons pas que grâce à une confiance à l'égard d'une autorité. Et si cette autorité est une autorité amicale, c'est un ami, c'est beaucoup plus facile. C'est pour ça que Socrate disait « Je peux parler si tu es mon ami. » Parce que je sais que si tu es mon ami, tu comprendras. Tu accepteras quand tu ne comprendras pas d'aller plus loin, de croire. Au plan surnaturel, puisque la parole de Dieu m'est révélée sans que je voie Dieu, si je voyais Dieu, l'évidence me serait donnée à mon intelligence. Comme je ne vois pas Dieu, je demeure dans l'obscurité. Je ne peux donc adhérer que si je sur l'autorité de Dieu. Et pour m'appuyer sur l'autorité de Dieu, il faut cette bonne volonté, cette confiance. C'est pour ça que le concile d'Orange, quand vous passez par la ville d'Orange, n'oubliez pas le concile d'Orange. Le concile d'Orange, je crois, au 4e siècle. Le concile d'Orange précise que le point de départ de la foi, c'est la pia affectio. C'est la pieuse affection à l'égard de Dieu. C'est cette bonne volonté. Je sais que si Dieu me parle, Dieu m'enseigne. Et je sais que si Dieu me parle et m'enseigne, il ne veut pas me tromper. Et donc je crois à tout ce qu'il dit. Vous voyez ? Il y a un petit raisonnement sous-jacent à l'acte de foi qui fait que le point de départ de la foi, c'est un acte d'amour. La pia affectio. C'est un acte d'amour. Je crois parce que Dieu me le révèle. Et je n'ai aucune raison de dire que Dieu peut me tromper. S'il est Dieu, il ne peut pas. S'il est Dieu, il ne veut que le bien. Il peut permettre le mal, mais il ne fait pas le mal. C'est deux choses différentes. Et donc, il ne peut pas me tromper. Et c'est pour ça qu'il réclame de moi une totale confiance. Et la pire affection, c'est cette totale confiance qui incline mon intelligence à s'ouvrir à la parole de Dieu. On écoute le message, on l'entend, on le reçoit, et en le recevant, on y adhère. La foi a donc ce caractère très particulier d'ouvrir mon intelligence. Mon intelligence, par nature, n'est pas accueillante à ce qu'elle ne comprend pas. Par nature, surtout si j'ai une bonne intelligence. Une intelligence assez pénétrante, et surtout si je suis habitué à des raisonnements scientifiques, rigoureusement logiques. Mon intelligence n'adhère qu'à l'évidence et qu'à des raisonnements rigoureux. Et donc, par nature, mon intelligence n'est pas accueillante à quelque chose qu'elle ne comprend pas. Pour être accueillante à quelque chose qui la dépasse, il faut un poids d'amour. Et c'est ce poids d'amour qu'on appelle la pia affectio. Cette inclinaison, cette inclination amoureuse à l'égard de celui qui me parle. Et à ce moment-là, mon intelligence s'ouvre pour recevoir le message de Dieu. Puisqu'il y a ce poids d'amour est libre. C'est librement que je m'ouvre à la porte de Dieu, que je veux m'ouvrir à la porte de Dieu. Donc, l'acte de foi est toujours libre, par nature, parce que j'adhère à quelque chose d'obscur, à quelque chose qui n'est pas évident pour moi, parce que j'adhère en m'appuyant sur l'autorité de Dieu. Oui, c'est déjà vrai au point de vue humain. Quand un ami vous raconte les exploits de ses vacances et qu'il exagère un tout petit peu, ses exploits, un peu Marius, hein, il aime, on est tous comme ça du reste, c'est tellement beau, tellement ce que j'ai vu, tellement extraordinaire. Alors on en ajoute. Quand on aime beaucoup quelqu'un, on est très heureux qu'il en ajoute. On n'est pas dupe. On le sait. Mais s'il exagère de trop, on lui dit, va donc, hein. Je comprends. Quand ce n'est pas un ami, c'est quelqu'un qui est plutôt un ennemi. Vous ne l'écoutez pas quand c'est plus évident. Et vous rejetez. Donc vous voyez, on adhère à quelque chose qu'on n'a pas vu grâce à un amour. Et c'est cet amour qui fait ce poids. Pour saint Augustin, l'amour c'est un poids. Amor pondus, le poids d'amour, qui pousse l'intelligence à y adhérer. Donc, c'est très juste la parole de saint Augustin. Celui qui veut croire, croit. Ça va très loin, ça. Vous voyez, quelquefois, on rencontre des personnes qui vous disent « Ah, comme vous avez de la chance de croire !» Alors, il faut les prendre tout de suite au mot. « Voulez-vous croire ?»« Ah, oh, je comprends si j'avais la foi !» Mais vous voulez croire, donc vous croyez. Ah, c'est extraordinaire, ça. Et c'est juste. Si on veut croire, ça prouve que on est touché par la grâce de Dieu. Autrement, on dirait non. Vous voyez, la foi descend dans notre psychologie humaine par cette volonté de croire. Parce que le contenu de la foi échappe complètement à notre psychologie humaine. Mais c'est par cette volonté de croire que la foi touche notre psychologie. Ça, je sais psychologiquement, si je veux croire. Si j'ai l'intention de croire. Mais ce qu'est le contenu de la foi, ça m'échappe. Parce que c'est dans l'obscurité. C'est le mystère auquel j'adhère. Un mystère divin qui est au-dessus de ma psychologie humaine. C'est ce qui me dépasse. J'y adhère, et j'y adhère pour le contempler, puisque c'est une personne qui me parle, et cette personne, elle est Dieu. Donc j'y adhère pour la contempler, pour l'aimer, pour vivre dans l'intimité avec elle. Voyez donc comment l'acte de foi est nécessairement lié. Je ne peux pas dire je crois parce que je suis obligé de croire. Ce serait pas la foi. Ce serait pas la foi. Et je crois que c'est parce qu'il y a cette liberté de croire que de fait, la rencontre avec le Christ, qui est le mystère de la foi, la foi c'est une rencontre avec Jésus. Il est vivant, il est présent, il nous aime, il veut notre bien. Cette rencontre avec Jésus peut se donner selon des modalités très différentes et selon des ententes très différentes. Il peut y avoir diverses rencontres. Il n'y a pas qu'une seule rencontre. C'était évident, il n'y aurait qu'une rencontre. Mais comme c'est l'obscurité, je peux toucher le visage du Christ, la présence du Christ, dans des aspects différents. Parce qu'il y a la part volontaire. Et la foi progressivement deviendra contemplative. Et dans cette contemplation, il y aura cette expérience de la présence de Jésus et de son amour pour nous. Mais cette expérience, elle est au-delà de ma volonté. Je crois quand je veux croire. Je ne peux pas dire que je contemple quand je veux contempler. Trop commode pour l'oraison du matin. Je veux expérimenter Dieu quand je veux expérimenter Dieu. Je connaissais quelqu'un disait qu'il était tellement arrivé loin dans les expériences mystiques qu'il suffit qu'il s'assied sur son fauteuil, parce qu'il y avait le fauteuil de l'oraison. Il s'assied sur son fauteuil pour tout de suite entrer dans la 8e demeure. Immédiatement. Le jour où il m'a dit ça, je lui dis, oh, je commence à comprendre le type de votre contemplation. Moi aussi, 8e demeure. Je veux ça. Tandis qu'au contraire, on sait bien que la contemplation qui est le fruit du don de sagesse, c'est l'Esprit Saint, seul, qui est celui qui la réalise en moi. Il y a une passivité. Tandis qu'au contraire, quand je veux croire, il y a quand même quelque chose qui vient de nous. Très important de comprendre la différence entre cette volonté de croire et la contemplation. Alors je pourrais pousser un tout petit peu. Comme l'acte de foi est libre, de même, l'acte religieux est libre. Quel est l'acte religieux par excellence? C'est l'adoration. J'adore quand je veux adorer. Et l'adoration, qui est un acte religieux, voyez bien ce que représente l'adoration. Un seul Dieu, tu adoreras. L'adoration, c'est reconnaître que Dieu est mon Créateur et que je suis totalement dépendant de lui dans mon âme spirituelle. Puisque actuellement, Dieu crée mon âme. Je ne peux pas dire « il l'a créé ». Non, il l'a créé maintenant, puisque l'acte créateur est éternel, et donc il est actuel. Quand je reconnais cet acte créateur de Dieu sur moi, quand j'arrive à le reconnaître, je n'en ai pas l'évidence, hein. Je n'ai pas du tout l'évidence que Dieu crée actuellement votre âme. Ce serait trop commode. Mais vous pouvez, dans un jugement de sagesse, au plan philosophique, le poser. Dieu crée actuellement mon âme spirituelle. l'âme immortelle. Dieu crée actuellement. Et il dit ça grâce à un jugement de sagesse. Ce jugement de sagesse me fait comprendre que je suis totalement dépendant du Dieu créateur. Et grâce à ce jugement de sagesse, je peux répondre à cet acte créateur de Dieu par une attitude de totale soumission et de remise de tout ce que je suis dans les mains de Dieu. L'acte d'adoration. Je peux aussi me révolter. C'est inadmissible d'être dans une totale dépendance à l'égard de Dieu. Dieu n'a pas demandé ma permission. Il m'a créé sans me demander mon avis. C'est intolérable, ça. Dans un monde démocratique. C'est intolérable. Il aurait dû demander ma permission. Non, il ne peut pas. Puisque l'acte créateur est un don absolu de ce que je suis dans mon être. De mon exister. Je ne pouvais pas demander ma permission. Autrement, je ne serais plus un acte créateur. J'existerais avant. Et donc, dans l'acte créateur, je suis complètement dépendant, mais radicalement à l'égard de Dieu. Et ça ne peut pas être autrement si Dieu est Dieu. Et si la créature a tout reçu de lui. Elle est donc dépendante radicalement. Et je sais que cet acte créateur de Dieu ne peut être qu'un acte d'amour dans sa sagesse. Dieu me crée dans sa sagesse. Cet acte qui se réalise dans l'amour et dans la sagesse, je réponds par l'amour et dans un regard de sagesse. Et cette réponse, c'est l'acte d'adoration. L'acte d'adoration, vous voyez, lui aussi est pleinement libre. Parce que je n'ai pas l'évidence de l'acte créateur de Dieu sur moi. Je pose, c'est un fait. Et devant un fait que je ne saisis que comme une conclusion